au maximum dans le camp catalan, alors que Veredamous est placé là-bas pour essayer, pourquoi pas, d'aller croquer ce ballon et sortir ce ballon en touche. Et il a assuré la touche, Carmonel, et d'ailleurs il a, c'est un coup de pied plutôt modeste là, de la part de l'ouvreur, qui va trouver une touche quand même sur les 40 mètres là, même pas 15 mètres gagnés de part de Carmonel. Montpellier qui va devoir faire un effort colossal pour aller chercher une victoire, marquer un essai transformé pour passer devant les yeux de sa piste.
Autant vous dire, moment déterminant de la saison,
il n'est pas aisé. Ouais, clairement, Alex, clairement, avec des Catalans qui, rendez-vous compte, seraient parmi les qualifiables pour une équipe qui avait perdu ses 4 premiers matchs de la saison. Ballon capté par les Héroltais, un ballon porté qui se met en place du côté des Héroltais avec Christopher Toulouvois qui est de retour, qui pousse ses actions. Premier arrêt de jeu stipulé par monsieur Brousset. Léo Colli qui jette ce ballon pour Darmon qui casse un premier plaquage, deuxième plaquage, Thomas Darmon qui rentre sur les 30 mètres de l'USAP, bien plaqué par Veredamou. Attention, cette offensive de Montpellier qui joue son va-tout là. Léo Colli, la passe supplémentaire pour Duguid qui rentre sa course face au qui ne s'échappe pas au plaquage. Léo Colli qui a toujours ce ballon à sa disposition. Ça vient d'ébayer du côté des Catalans et c'est récupéré et c'est terminé. Perpignan qui s'impose à Montpellier, 25 à 20 pour l'USAP. Quel grand coup effectué par les hommes de Franck Azéma qui se sautent les uns les autres là, et les 100 et or qui créent une immense sensation ici à Montpellier et qui s'invite dans le top 6 du top 14. Quel retour de situation de la part des Catalans et tous les supporters catalans qui exultent ici au GG Stadium. Quelle partie, quelle rencontre effectuée par Perpignan qui s'impose ici à Montpellier, 25 à 20.
Voilà, on l'a vécu en direct bien sûr et on va revenir dessus dans Au cœur de la vallée. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Allô Mel ?
Oui ?
Faut que je te raconte, je viens de choper un bon plan de dingue chez Distri Center. Pour 2 t-shirts enfants achetés, le 3e est offert.
Mais non !
Mais si ! Et c'est à partir de 2€ le t-shirt si t'en prends 3.
Mais non !
Mais si ! Dépêche-toi, c'est seulement jusqu'au 7 mai chez Distri Center. Allez, bisous !
Distri Center, voir conditions en magasin et sur districenter.fr.
Écoutez Sud Radio Strasbourg en DAB+.
Sud Radio.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
TF1.
This girl is on fire.
The Voice, les Cross Battles, présenté par Nico Saliagas, ce soir sur TF1 et en streaming sur TF1+, en association avec les Indes Radio.
Yeah, yeah, wow, merci ma maman chérie, merci maman, merci, c'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4€, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4€, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule glouglou, stock limité, plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Burger King.
Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente...
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio.
Au cœur de la mêlée, il est 19h03 sur Sud Radio, le magazine qui revient sur l'actualité du rugby, la plus chaude, celle du multi de cette 22e journée. Et on essaiera aussi de s'élever un petit peu avec le directeur général de l'EPCR, Jacques Reynaud, qui sera avec nous à partir de 19h30. Pour l'instant, nous accueillons Philippe Spanghero qui est avec nous. Salut Philippe.
Salut François, bonsoir à tous.
Allez, on va répéter et rappeler les résultats de cette 22e journée. Toulouse a battu le Racing 32 à 12. Lyon a disposé de Pau 38 à 20, bonus offensif pour les Lyonnais. Perpignan est allé s'imposer à Montpellier 25 à 20. Oyonnax a fait tomber Castres 22 à 19. Et l'UBB s'est imposé à Bayonne 34 à 15. Il y a de quoi commenter aujourd'hui, Philippe. Par quoi tu veux commencer ?
Forcément, par la sensation catalane en terre héroltaise. Voilà, c'était un match très attendu. Il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup d'engouement. On en a parlé lundi dernier entre supporters. Il y avait un match dans le match qui avait commencé. Et puis, on attendait beaucoup des Catalans et de leur capacité à aller faire le coup. On en a parlé aussi lundi. Et là, clairement, la mauvaise opération, elle est pour ces Montpelliérains qui, en fonction des autres résultats du jour en plus, se mettre dans une situation très délicate.
Ouais, ils vont sans doute se retrouver à, enfin, je veux dire, sauf si Clermont perd ce soir contre le Stade français Paris. À domicile, eh bien, Montpellier serait à 5 points de Bayonne, qui serait le 12e ce soir. Montpellier a quand même glané un point de bonus, hein, ce soir. Montpellier 13e, 39 points, le 12e et Clermont avant le match de ce soir et Bayonne donc 11e, 44 points. Bayonne battu par l'UBB. Alexandre, oui, il s'est passé des choses du côté de Bordeaux parce que le bunker a rendu son verdict. France-Angleterre, c'est le tournoi destination féminin.
On redoutait le déblayage d'Asia Halfaoui, et bien directement dans la tête de la joueuse anglaise, s'est transformé d'un jaune vers un rouge au bunker. Il y avait très peu de doutes sur la décision.
Mais circonstances atténuantes ne sont pas passées, quoi. Le public, le record, tout ça, non, c'est pas passé.
Non, bon. Non, malheureusement, c'est pas passé. Donc les Bleus qui vont finir dans le meilleur des cas à 14, comme leur score 14-35. Donc au tableau d'affichage, 51e minute de jeu. Je crois que le Grand Chelem, ouais, ça va pas le faire pour l'équipe de France, malheureusement, devant un public record à Chaban-Denmas. Et puis j'avais une stat à vous donner sur ce Montpellier-Perpignan. Le nombre de défenseurs battus, ballon en main, 11 du côté de Montpellier, 24 pour Perpignan dans cette partie.
Ouais, et c'est effectivement impressionnant de voir aussi comment Perpignan a réussi, parce que il y a quand même des occasions gâchées. T'es d'accord, Philippe, côté montpelliérain, il y a trois échecs, je crois, de Carbonel en première mi-temps, et notamment un temps fort en fin de mi-temps qui n'est pas concrétisé. Les Montpelliérains ont eu leur chance dans ce match, mais la deuxième période a été quand même essentiellement catalane.
Bien sûr, ils auraient pu tuer le match bien avant, mais c'est ce que je craignais lundi. J'avais misé, moi, sur une victoire catalane parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais je trouve que c'est Montpellierain depuis ce changement et cet électrochoc créé avec ce changement de staff. Il y a du mieux, mais finalement, le meilleur visage de Montpellier, on l'a vu à l'extérieur, quand ils ont été assez désinhibés, notamment quand ils ont retrouvé leur conquête. Je me souviens de ce match au Racing, qui est un vrai tournant dans cette saison. On s'est dit qu'ils avaient inversé la dynamique. Et puis, il y a cette fébrilité qu'ils n'ont pas réussi à gommer à domicile. Et elle a été présente aujourd'hui. Et ça leur coûte le match.
Comment parce que... C'est quoi? C'est un problème avec les supporters? Il n'y a pas assez de monde? Il n'y a pas assez de bruit? Il n'y a pas assez de ferveur?
Non, alors c'est dur à expliquer. Pour moi, c'est exclusivement psychologique. On a vu cette équipe capable de hausser son niveau de jeu, mais encore une fois, les matchs références de Montpellier, pour moi, ils sont à l'extérieur. Et à domicile, on a trop vu cette fébrilité. Et là, elle a été exacerbée en plus par tout le contexte autour du match, par les discussions autour de la billetterie, par cette pression catalane. Parce que il faut rendre hommage quand même à ce public catalan qui est très particulier. On aurait dit un match de phase finale aujourd'hui. Enfin, c'est quand même assez magnifique pour notre sport. Et cette équipe de l'USAP le mérite. Mais voilà, Montpellier a eu sa chance clairement aujourd'hui, mais une fois de plus, cette fébrilité à domicile leur a coûté cher, et pour moi, c'est psychologique.
Ouais, à l'heure de... Nous parlons, hein, Perpignan est dans le top 6 quand même, grâce à cette victoire à Montpellier. C'est assez incroyable. Alors, les positions sont serrées, et il y a également le match de La Rochelle demain face à Toulon. On accueille sur l'antenne de Sud Radio notre premier invité dans Au cœur de la mêlée, c'est Benoît Auguste, ancien talonneur de Biarritz et du Stade français. 4 Brennus gagnés quand même, d'affilée. Voilà, c'est Benoît qui est avec nous en direct, et puis surtout aujourd'hui, patron de l'US Dax est avec nous. Salut Benoît.
Bonjour à tous.
Bon, alors toi, tu as gagné un derby hier à Mont-de-Marsan, c'est la Pro D2. Et puis
18-13.
Ouais, ça, 18-13, ça va sans doute vous être précieux pour cette fin de saison. Il reste deux journées. Comment tu juges, si jamais tu as pu le voir, ce derby entre Montpellier et Perpignan?
Mais j'ai pu le voir justement, puis j'attendais mon téléphone, puis du coup ça a retardé mon appel. Mais non, mais ouais, on voit. Mais je trouve que au-delà de Montpellier, on a vu Perpignan qui est égal à elle-même, parce qu'elle n'a jamais rien. Même à un moment, ils ont été menés, je crois, de 10 points, et ils ont continué à jouer tout le long du match. Ils sont dangereux de la première à la 80e, donc ils méritent amplement leur victoire.
Ouais, ils méritent amplement leur victoire. Tu retiens quoi Benoît, quand on a joué longtemps à Biarritz comme toi, on se entre guillemets réjouit de la défaite de Bayonne face à l'UBB?
Non, jamais. On se réjouit jamais de la défaite de Guerre, en plus, surtout du voisin. Et puis maintenant, j'ai changé de club sans changer de couleur. Mais voilà, et puis même Bayonne, je crois que ça faisait longtemps qu'ils étaient vaincus à la maison.
C'est quand même la super perf de l'UBB, quand même. Parce que à Jean Daugé, depuis le retour en top 14, jamais, si je ne m'abuse, Bayonne n'avait été vaincu à domicile, Philippe.
Ouais, 28. Je crois que le nombre, c'est 28 matchs sans défaite.
Il y a eu des défaites à Anoueta, mais pas à Jean Daugé.
Ouais, pas grand danger. On a pensé à un moment qu'ils allaient nous refaire le coup, les Bayonnais, quand ils sont revenus en début de deuxième période, qu'ils ont recollé au score. On a eu très souvent ce scénario à Jean Daugé avec ce retour en fin de match, mais là la marche était quand même un peu haute et clairement la dynamique, ça va être compliqué en bas de classement entre Montpellier et Bayonne parce que c'est des dynamiques, des spirales très négatives pour ces deux équipes et il va falloir un électrochoc, ça va être compliqué jusqu'à la fin.
Est-ce que tu as une stat, Alexandre, toi qui as les yeux sur le France-Angleterre féminin et également sur les stats?
Eh ben écoute, oui, j'en ai une. C'est le nombre de passes de l'Union Bordeaux-Bègles aujourd'hui. 80 passes, 71 percussions. Donc un jeu entre guillemets un petit peu réduit. J'ai pas envie de dire restreint, mais réduit du côté donc de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui a quand même été performante. Alors peut-être est-ce qu'on peut estimer que l'UBB aujourd'hui est un peu plus pragmatique, un peu moins axé sur le jeu de trois quarts que d'habitude. C'est une question qu'on peut se poser peut-être légitimement. Et c'est peut-être de la recette aujourd'hui de cette victoire à l'extérieur.
Avant de parler de Dax, bien sûr, Benoît, juste ton petit regard justement sur la bascule de l'UBB qui a mis 40 points à Clermont et qui va quand même faire un coup à Bayonne après sa désillusion de Champions Cup. Quel est ton regard?
Mais Bordeaux, je trouve qu'ils montent en puissance. Ils ont quand même des joueurs extraordinaires. Tout le monde parle de leur ligne de trois quarts qui est stratosphérique, hein, qui pourrait être l'équipe de la ligne de trois quarts de l'équipe de France. Mais je crois que cette demi-finale quand même a mis le doigt sur un des, alors point faible je sais pas, mais sur la demi-finale contre Harlequin c'était assez criant quand même, puisqu'à chaque mêlée ou à chaque groupé pénétrant ils étaient pénalisés, donc ils ont fait un gros travail là-dessus. Ils sont arrivés à Bayonne aujourd'hui avec des conditions climatiques qui étaient quand même assez compliquées, d'où peut-être ce petit nombre de passes, et ils vont peut-être aussi apprendre à gagner des matchs sans être flamboyants, et des fois ça peut vous amener très haut.
Ouais, d'autant quand on va faire le coup à Bayonne, quand même c'est assez rare pour être noté dans des conditions difficiles au début en termes de météo. 58 points pour l'UBB qui est troisième, hein, ce soir il était cinquième avant cette journée. Toulouse deuxième, 65 points. Le Stade Français qui joue ce soir, 67 points et premier. Parlons quand même, faisons une petite parenthèse Pro D2. J'imagine, Benoît Auguste, que ça a été peut-être un peu la fête à Dax hier soir quand on gagne à Mont-de-Marsan. Certes, à trois journées de la fin de la phase régulière, c'est important, mais j'imagine que face aux voisins et rivales, il y a un petit truc en plus quand même.
Pour être très franc, oui, il y a un petit truc en plus quand même. on vit une saison absolument extraordinaire, même qu'on n'aurait pas pensé en début d'année, ou même quand on est monté l'année dernière contre Blagnac, et puis voilà, il se trouve que à trois journées de la fin, on se voyait en train de batailler pour essayer de jouer la qualification, et puis le hasard de calendrier a voulu qu'on aille jouer chez notre voisin à la préfecture Mont-de-Marsan pour essayer de glaner cette place qualificative, et puis ça s'est soldé par une victoire à l'extérieur depuis, justement, comme on est dans les stats, on n'avait pas gagné depuis 2006, donc oui, c'était une grande performance, et puis on a surtout vu qu'on a donné beaucoup de plaisir à tous nos supporters.
Voilà.
Et Benoît, justement, quand on regarde un petit peu la saison de Dax, il y a les 8 premières journées où il y a 2 victoires, 1 match nul et 5 défaites pour l'US Dax, jusqu'au donc 19 octobre 2023. Et puis il y a ce succès face à Mont-de-Marsan le 3 novembre. Et depuis, eh bien, il y a eu que 6 défaites sur les 20 journées suivantes, en fait.
Oui, ben on a eu un début de saison compliqué parce qu'aussi on a fait confiance d'abord au groupe de national qui nous avait permis de monter. Avec cet inconnu quand même, puisqu'on avait passé une saison en national absolument aussi, entre guillemets, on avait marché sur l'eau, on n'avait pas perdu beaucoup de matchs, mais sur la fin de saison, on était fatigué, ce qui nous empêche d'aller chercher le titre. Et puis on est allé chercher d'autres garçons qui sont arrivés un petit peu plus tard, il a fallu que la mayonnaise prenne, que le staff aussi prenne ses marques, et puis petit à petit, on a vu aussi ce qu'il fallait, l'ingrédient qu'il fallait mettre dans ce Pro D2, et tu parles justement de ce match contre Mont-de-Marsan à la maison, qui se joue sous des conditions climatiques compliquées. Et on s'est rendu compte peut-être à ce moment-là aussi qu'avec le paquet d'avant qu'on avait, on n'était peut-être pas obligé de faire du beau jeu pour gagner. Et c'est ce qui nous a permis sur cette période hivernale d'engranger un maximum de points. Ouais.
Voilà, ça veut dire que Jeff Dubois peut aussi gagner avec les gros, des petits tas et tout. C'est possible.
Mais bien sûr que c'est possible. Alors, c'est pas sa façon préférée, j'imagine. Mais tant que c'est gagné à la fin, on est content.
Mais justement, il y a deux essais inscrits par les ailiers, quand même.
Yoann UG, Catherine.
Il faut rendre à César. Qui a marqué les deux essais, s'il vous plaît?
Extraterrestre, là, en cours de route.
Qui a marqué deux essais hier contre Mont-de-Marsan, Benoît?
C'est notre petit talonneur qui joue à l'aile.
Ah, d'accord. Non, mais bon, je veux bien les avants par-ci, par-là, il faut arrêter un peu.
Ouais. Non, mais voilà, c'est toujours les trois quarts qui veulent la guerre entre les avants et les trois quarts. Moi, j'ai dit qu'on peut gagner les deux manières, c'est tout.
Juste pour clarifier, parce qu'on a vu des petites réactions là sur les forums de Pro D2 ici et là, Benoît Auguste, Jeff Dubois, il sera entraîneur de Dax la saison prochaine ?
Jeff Dubois sera entraîneur de la saison de Dax la saison prochaine.
Et en top 14.
Suivante aussi. Non, doucement.
Non, parce qu'en fait, on voulait que tu dises ça, et après, nous, on va intégrer en top 14 dans le montage.
Ouais, non, je dis rien du tout. Ouais, ça va doubler les problèmes, sinon. Et tout le staff est reconduit aussi sur les deux prochaines saisons.
Ouais, 73 points pour Dax, 5e. Donc, ça veut dire quoi ? Deux journées encore à disputer. Objectif, barrage à domicile. Voilà, parce que Grenoble 74, Béziers 76.
Ben, on a jamais fait de langue de bois et on n'a pas dit qu'on prenait les matchs les uns après les autres. Il fallait qu'on assure notre maintien parce que c'était quand même compliqué pour un promu. Il faut d'abord assurer le maintien, et puis une fois que ça a été assuré il y a 15 jours, ben ça a été le discours du staff et notamment de Jeff en disant que maintenant ça appartenait aux joueurs, quoi. Donc s'ils voulaient s'écrire une histoire, ben, ils allaient aller se chercher les choses. On n'a pas eu de décompression parce que le maintien était assuré. On a vu encore une bande de garçons formidables hier soir sur la pelouse de Boniface pour aller chercher cette victoire et se donner peut-être quelque chose de rêvé sur une belle fin de saison, mais pourquoi pas.
Bon, l'outsider d'Aqua, on va vous appeler comme ça, mais on va suivre quand même cette fin de saison, et j'imagine que ça doit faire plaisir, toi, l'ancien d'Aqua, de revivre ça et de sentir quand même un petit frémissement, le public et tout, tu dois vibrer quand même.
Ouais, franchement, c'est personnellement, hein, bon, pour le coup, je vais parler de moi, mais c'est vrai que je suis revenu il y a 5 ans quand le club est descendu de Pro D2 en Fédéral 1 à l'époque, puisque la nationale n'existait pas, et puis, ben, comme on le sait, on a mangé notre pain noir, mais la satisfaction que j'ai aujourd'hui, c'est de voir sur le terrain 50%, voire 60% des gamins qui nous ont permis de batailler en Fédéral et qui, à l'époque, sont, passe-moi l'expression, mais allaient se faire casser la gueule à Tyros, Anglet ou Saint-Jean-de-Luz, qui ont appris, qui sont restés là, et puis qui, sur l'année nationale, l'année dernière, nous permettent de revenir en Pro D2, et qui maintenant font les beaux jours du club de Dax, et ça fait plaisir de les revoir à ce niveau. Hein.
Et si tu penses la montée serait pas un peu prématurée, Benoît, cette année ?
On va pas du tout parler de montée.
Non, mais bon. Il faut se projeter quand même.
On se projette, et pour être très franc, voilà, on mérite peut-être d'être à cette place, puisqu'on a quand même fait de belles performances. Pour le citer, on a battu deux fois Biarritz, deux fois Mont-de-Marsan. Mais quand on voit le classement, ben pour l'instant, on a perdu deux fois contre Aix et deux fois contre Vannes. Donc, on sait aussi les adversaires qu'on a, mais forcément, sur un match, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, si jamais ça doit arriver, mais je préfère même pas y penser.
Bon. Voilà. Eh ben, on va rester sur ça. Te souhaiter bonne chance.
Bon, avec toi.
Ah, oula, si Johan veut reprendre, je le fais signer. Alors, attention. Ouais,
avec Johan. Benoît.
Mais il est en forme, hein, Johan. Il est en forme.
Ouais,
voilà.
Pas moi. Ouais. Pas.
Allez, en tout cas, merci Benoît. Bonne fin de saison à Dax, bien sûr, à Jeff Dubois, toute l'équipe. Et on suit ça, bien évidemment, sur Sud Radio. La Pro D2, deux derniers matchs de saison régulière, ce sera le vendredi soir, bien évidemment. Allez, merci Benoît. Dans un instant, merci, on va revenir avec Johan, avec Philippe Spanghero, avec toute l'équipe et vous au 0826-300-300. On va revenir sur le match du jour. C'était Montpellier face à Perpignan. Et Michel Macurdi sera notre invité, ancien joueur du MHR. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Allô, Mel ?
Oui ?
Faut que je te raconte. Je viens de choper un bon plan de dingue chez Distri Center. Pour deux t-shirts enfants achetés, le troisième est offert.
Mais non !
Mais si ! Et c'est à partir de 2€ le t-shirt, si t'en prends 3.
Mais non !
Mais si ! Dépêche-toi, c'est seulement jusqu'au 7 mai chez Distri Center. Allez, bisous !
Distri Center. Voir conditions en magasin et sur districenter.fr.
Sud Radio Tulle.
95.4.
Sud Radio.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot.
Avec vous les les passionnés de rugby, les auditeurs Sud Radio, bien sûr, au cœur de la mêlée, pour revenir sur cette 22e journée. Toute l'équipe est réunie autour de Johan Huger, de Philippe Spanguero, Alexandre Priam. Tiens, Alexandre, juste petit point quand même sur les féminines qui sont en train de disputer leur dernier match du tournoi 2024 face à l'Angleterre à Bordeaux, record de spectateurs, mais pas performance ébouriffante des Françaises qui sont à 14. Hein.
Ouais, elles sont à 14 suite au carton rouge de Aïssa Ralfaoui. Il y a toujours 35 à 14 à la 63e minute de jeu. Les Anglaises qui sont devant de 21 points et les Bleus quand même qui sont à l'offensive à 5 mètres de l'embute des Red Roses avec l'énorme travail à l'instant de Madou Soufal.
Voilà le physique de Madou Soufal qui joue au Stade Bordelais, faut-il le rappeler. En avant. Et voilà, mais c'est aussi parce que la pression défensive des Anglaises est là. Il y a eu aussi de la pression dans le match du jour, celui qui a opposé Montpellier battu sur sa pelouse à Perpignan 20-25. Pour en parler, bien sûr, Johan et Philippe, on l'a déjà abordé dans tout début d'émission. Johan, juste ce point, on se le disait hors antenne, tu pensais qu'à la mi-temps, Montpellier allait en gros tuer le match.
Oui, bien sûr. Bah, on a vu un excellent début de match des Montpellierains, des Perpignanais complètement à côté, des mauvais choix de jeu. Ils prennent mêlée alors qu'il faut aller en touche. Et derrière, il y a pénalité pour les Montpellierains. Et voilà, de nombreuses occasions manquées aussi des Montpellierains. Et je me suis dit qu'en deuxième mi-temps, ils allaient aussi tuer le match. Et voilà, un non-match des Perpignanais. Et puis, voilà, le temps de changer de chaîne, de revenir, et les Perpignanais sont de retour.
Ouais, 20-25, il était au match dans les tribunes du GGL Stadium, l'ancien deuxième ligne montpelliérain, Michel Macurdi. Salut Michel, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio.
Bonsoir à tous.
Bon, comment toi tu l'as ressenti dans les tribunes, justement, ce que disait là Johan et ce qu'on disait tout à l'heure avec Philippe Spanguero, c'est voilà, que s'est-il passé? Pourquoi la mécanique montpelliéraine c'est un peu grippée?
Bah, je suis totalement d'accord avec Johan. Je pense qu'on fait une très belle première mi-temps où on est plutôt efficace. Perpignan n'a pas trop le ballon. Malheureusement, on rate quelques points au pied qui nous font mal et qu'on paye à la fin. Et c'est vrai que la deuxième mi-temps, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. Perpignan a dominé sur les impacts. Ils ont été toujours dans l'avancée. Et Montpellier, ils ont enchaîné 4-5 temps de jeu. Et à chaque fois, ils avaient du mal à avancer. Donc du coup, ils ont beaucoup plus subi la deuxième mi-temps. Et malheureusement, défaite de Montpellier de peu, mais défaite de Montpellier.
Ouais, comment est l'ambiance là dans les travées? On a entendu beaucoup les Catalans qui célébraient leur équipe, mais vous les supporters montpelliérains, supporters ou anciens joueurs de Montpellier, comment toi tu vois cette fin de saison, parce qu'il y aura notamment une 25e journée face à Lyon qui s'annonce important, un déplacement à Castres, je sais, côté montpelliérain, comment tu vois ça?
Bah, franchement, après, alors, sur ce match, après, ce que est génial, c'est franchement de voir un match comme ça à Montpellier, Montpellier-Perpignan, avec une ambiance pareille, même si voilà, il y a des fêtes de Montpellier, mais c'est top de voir du rugby comme ça, où il y a une ambiance de fou au stade. Bon, les Catalans ont fait beaucoup de bruit, on a l'habitude, mais voilà, c'est top, on a le sentiment un peu de voir des phases finales, du coup, ça fait du bien. Et après, la fin de saison de Montpellier, en toute sincérité, il y a 6 mois de ça, quand on perdait contre Yonax à la maison, on se disait, si on arrive à faire des barrages, déjà, ce sera très bien. Là, on a enchaîné quelques victoires, du coup, là, on est un peu dans le creux. Mais je pense que, voilà, si Montpellier arrive à faire les barrages, eh ben, ça sera un moindre mal, parce que je pense qu'on est passé très très loin de la correctionnelle. Après, c'est toujours compliqué, hein, le match de barrage. On sait que j'ai pas les stats, hein, mais souvent les clubs de Pro D2, c'est souvent eux qui ont l'avantage, à Perpignan qui s'en est sorti à chaque fois. Ça risque d'être compliqué, mais je pense que voilà, Montpellier maintenant, c'est, enfin, pour nous supporters, et c'est voilà, faut accrocher ce barrage et faire un gros match et jouer la saison sur un match.
Ouais, Philippe Spanguero, toi tu penses que ce soir Montpellier doit uniquement se concentrer sur cette 13e place et le match de barrage?
Contre Béziers, un bon derby.
Il faut qu'ils jouent crânement leur chance jusqu'à la fin. Il y a encore de quoi espérer, mais encore une fois, je le répète, c'est vrai que ils ont un sujet à régler et peu importe ce qui se passe jusqu'à la fin, et s'ils doivent déjà identifier ce barrage. C'est cette fébrilité psychologique sur ces matchs à forte pression, et notamment à domicile, on en parlait tout à l'heure, et c'est pour ça que lundi, quand on en parlait, je pensais que Perpignan irait faire le coup. Donc après, je suis pas tout à fait d'accord avec Johan, c'est un peu dur de parler d'un non-match de Perpignan, c'est un non-milieu de match.
Parce non, que après, je dis non-première mi-temps, capables... non-première mi-temps, hein, je dis Philippe.
Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi, bien sûr, parce que c'est vrai que là-dessus, ils ont attendu. Ouais. Mais encore une fois,
tu retournes vite ta veste quand même.
Quoi?
Non, moi j'ai pas dit, on a la vidéo, Philippe, et j'ai pas dit no match. Je dis, ils étaient pas rentrés dans la partie, je pensais qu'ils allaient faire un no match, donc c'est pour ça que j'ai changé de chaîne.
Alors, j'ai compris que t'avais parlé d'un no match, parce que c'est vrai qu'après, finalement, on a retrouvé le volume de jeu, ils ont mis des intentions, et après, psychologiquement, quand Montpellier est remené au score, ben là, ils perdent pied, et à la fin, ils ont l'occasion, mais ça vient de trop loin, donc c'est vrai que la dimension psychologique, pour moi, va être hyper importante et prépondérante jusqu'à la fin de la saison.
Michel Macurdi, quand même, il reste 4 matchs, déplacement à Castres, réception du Stade Toulousain, réception de Lyon et déplacement à Clermont. Clermont qui, en cas de défaite ce soir, pourrait être le 12e à 5 points des Montpellierains. Comment tu vois ces 4 derniers matchs? Parce qu'on sent quand même cette équipe devenue friable. Le doute c'est à nouveau emparé de ce groupe.
Ouais, je pense qu'il y a un début de saison qui a vraiment été bon. Changement de staff qui a apporté une nouvelle dynamique. Ça a marché pendant 4-5 matchs et c'est vrai que là on ressent un peu les difficultés du début de saison. Après, franchement, je connais pas les calendriers des autres équipes, mais si Montpellier arrive, ouais, non, mais après tu sais comment c'est. Quand on voit Bordeaux qui va gagner à Bayonne.
Alors, Montpellier va à Castres.
Ouais. Castres, Montpellier, à Castres, c'est toujours compliqué.
On reçoit Toulouse. On va recevoir Lyon. Ouais. Et d'aller à Clermont. Mais par exemple, tiens, prenons Clermont, qui fait partie quand même, qui est quand même, entre guillemets, dans la bataille. Clermont reçoit ce soir le Stade Français Paris avant d'aller à Perpignan, puis de recevoir Castres. Ensuite, Clermont ira à Toulon. Puis terminera sa saison à domicile face à Montpellier. Et ça, c'est intéressant.
Ouais, tout à fait. Alors après, ce qui est sûr, c'est que voilà, faut essayer de prendre un maximum de points et que les deux derniers matchs de la saison régulière contre Lyon et Clermont vont être, ça va être crucial. Mais je vous dis franchement, quand on voit le début de saison qu'on a fait, si déjà on arrive à accrocher les barrages, je pense que ça sera un moindre mal. Et après, là où je rejoins un petit peu tout le monde, c'est que c'est le côté psychologique. Et est-ce que sur un match à coup près comme ça, est-ce que Montpellier, psychologiquement, on est capable de se surmotiver, d'arriver à passer un match comme ça? Parce que on en a joué à Montpellier à une époque. Ces matchs-là, c'est les matchs de dernière saison, là où tu joues ta survie sur un match, c'est toujours très très compliqué. Et c'est vrai que le côté psychologique, je suis d'accord, hein, ça risque de jouer.
Bon,
si on peut ne pas faire ces barrages, c'est parfait, mais si on les fait, je pense que l'équipe a les moyens de se sauver, mais le côté psychologique va être hyper important. Quoi.
Allez, 30 secondes, 20 secondes sur peut-être le fiston, quand même. Il était à Montpellier, il est parti à Castres, hein, c'est ça de mémoire.
Ouais,
hein.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et il a commencé un petit peu à jouer à Castres, malheureusement. Ça fait 2 ans qu'il enchaîne les blessures. Il a joué en Coupe d'Europe, je me souviens plus contre qui c'était. Et malheureusement, il s'est blessé, il s'est fait mal à l'épaule. Et pas de chance, hein, il a chopé une bactérie, du coup là, il est sous antibiotiques, donc bon, la saison est finie pour lui, mais j'espère que ça va s'arrêter la lagging un peu et qu'il va pouvoir enfin profiter un peu de ce sport magnifique.
Bon, merci Michel Macurdi, ancien deuxième ligne de Montpellier, qui a vécu ce match Montpellier-Perpignan dans les tribunes et avec son œil de connaisseur. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. On rappelle la défaite des Montpellierains, un bonus défensif tout de même, 20-25 face à des Catalans qui intègrent le top 6 avant la suite de cette journée. Ce soir sur Sud Radio, il y aura Clermont face au Stade Français. Demain, La Rochelle face à Toulon pour clôturer cette 22e journée. Voilà, dans un instant, on va parler rugby, on va essayer d'élargir un peu la focale et on va parler de l'EPCR, voilà, du rugby européen avec notre invité, il est directeur général de l'EPCR, c'est Jacques Reynaud. Et peut-être juste avant de tourner, de faire la pause, peut-être un petit point score avec toi Alexandre sur les féminines France-Angleterre.
Ouais, avec un essai qui a été marqué par l'équipe de France, ça fait 19-35 dans ce match. L'essai à l'instant de Marine Ménager, le doublé pour Marine Ménager, il reste 10 minutes à jouer. Et pourquoi pas un exploit, 16 points à remonter en attendant la transformation pour Lina Kerwa.
Eh ben on le souhaite en tout cas et on va le vivre sur Sud Radio bien sûr, parce qu'on est ensemble jusqu'au bout de la nuit, enfin en tout cas 23h, à tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. En général, la machine à café, c'est la bonne excuse pour faire des pauses au boulot. Mais là, avec votre machine Nescafé,
oui.
Eh ben, j'ai aussi une excuse pour faire des pauses quand je télétravaille.
Et ça fait du bon café. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, la machine Nescafé Dolce Gusto Minimi et ses 60 capsules offertes avec 20€ de réduction est à 39,90€. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie 2 ans. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Sud Radio Bergerac.
95.5.
Sud Radio.
Dites donc, cher voisin, on s'est offert une pergola.
Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même.
Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille?
Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, store, carport, porte, portail, peinture.
Des fenêtres et volets aussi?
Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte.
Usineonline.com. Faut que j'en parle à ma femme. Chérie!
Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot.
Au cœur de la mêlée avec Yoann Huger, Philippe Spanguero, Alexandre Priam, toute l'équipe Sud Radio bien sûr, et vous les auditeurs au 0826 300 300. Les dernières minutes du match France-Angleterre, ça tourne à destination féminin. Les Françaises ont 14 points de retard, elles ont encore 8 minutes 30 pour marquer deux essais et pourquoi pas créer l'exploit, on l'espère. En tout cas, on va parler de rugby bien évidemment. On sera ensemble ce soir avec la suite de la 22e journée Clermont face au Stade français, mais on va s'arrêter aussi avec notre invité sur une des expositions qui nous fait, compétitions qui nous fait vibrer sur l'antenne.
Exposition aussi.
C'est la Champions Cup, et c'est le directeur général de l'EPCR, l'organisme qui organise la Champions Cup et la Challenge Cup. C'est Jacques Reynaud qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Alors bon, voilà, pendant que les championnats domestiques sont en train de vivre des moments pleins de suspense, vous vous préparez les demi-finales et ça s'annonce quand même assez grandiose côté Champions Cup, notamment avec ce Toulouse Harlequin, ça sera le 5 mai, précédé du Leinster Northampton de mémoire.
Ben effectivement, c'est le point d'orgue de la saison, les demi-finales et puis les finales. Nous avons vendu les 33 000 places de Toulouse en 20 minutes et les 82 000 places de Croke Park en 3 heures. Donc il y a un engouement extraordinaire pour les demi-finales de l'Investec Champions Cup. Et puis, nous regardons aussi, bien évidemment, ce qui se passe côté Gloucester et côté Sharks, puisque il y a pour la première fois des Sud-Africains en demi-finale à la Champions Cup. Et puis, Gloucester et Clermont toutes les deux équipes ont déjà trois titres, peuvent en mettre une quatrième coupe. Alors. Dans leur vitrine. Donc c'est effectivement une fin de saison qui s'annonce extraordinaire.
Est-ce que l'engouement que l'on connaît à Toulouse, là, ce que vous avez décrit, est le même du côté de Dublin pour le Leinster?
Ah bah écoutez, oui, puisque le Leinster, qui joue dans son stade de RDS en général, se délocalise de temps en temps à la Viva, comme le Toulouse se délocalise de Hannes Wallon au Stadium. Et là, ils sont allés, et nous avons choisi avec eux, Croke Park, 42 000 places, qui normalement est un stade, le dernier match de rugby qui s'y est joué, c'est 2009. Hein, c'est l'antre des sports gaéliques en Irlande. Hein, et c'est normalement réservé pour ces disciplines-là. Et donc c'est un grand honneur pour l'Investec Champions Cup de pouvoir être le premier match de rugby avec les demi-finales de l'Investec Champions Cup qui retourne à Croke Park devant 82 000 spectateurs.
Alexandre Priam pour Jacques Reynaud, directeur général de l'EPCR sur Sud Radio.
Alors il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien aborder avec vous, Jacques Reynaud. Déjà, voilà, ça fait désormais 2 ans que les clubs sud-africains ont intégré la Champions Cup. Est-ce que vous pouvez nous dresser un premier bilan de l'intégration de ces clubs sud-africains en Champions Cup?
Oui, bien sûr, avec grand plaisir. C'est effectivement, nous avons 4 franchises et une 5e, mais les Toyota Cheetahs sont basées à Amsterdam. et font déjà un parcours un petit peu particulier puisqu'ils choisissent de jouer leur saison européenne à Amsterdam. Donc je vais me concentrer sur les franchises vraiment qui jouent au domicile. Alors nous regardons ça de sous trois angles différents, hein, l'élément sportif, l'élément commercial et puis on va dire l'élément prestige du tournoi. Et le bilan est globalement positif. Nous avons, je crois que tout le monde est d'accord que les franchises sud-africaines ont mérité ou amplement mérité leur place dans la Champions Cup et la Challenge Cup. Elles se sont arrêtées deux fois en quart de finale, mais déjà les Sharks en Challenge Cup vont pour la première fois en demi-finale. Donc on va voir. Mais sportivement, c'est une très belle réussite financièrement. Nous avons élargi, si vous voulez, un marché, la Champions Cup et la Challenge Cup à un autre marché cœur, un grand marché du rugby qui est l'Afrique du Sud. Hein. Nous avions le Royaume-Uni, la France et l'Italie comme marchés principaux. Nous avons fait l'Afrique du Sud et puis l'année dernière, nous avons fait la Géorgie aussi. Mais donc, d'un point de vue de l'expansion du tournoi et d'un point de vue des retombées financières, c'est bon. Et puis, d'un point de vue du prestige du tournoi, ça nous a permis aussi d'étendre la diffusion télévisuelle de la Challenge Cup et de l'Investec Champions Cup. Nous sommes aujourd'hui repris dans 100 pays. Voilà. Il faut dire aussi, pour être tout à fait honnête, que c'est pas toujours facile d'imposer la logistique et les transports, et que voilà, ce sont des critiques que nous écoutons avec attention. Là, par exemple, récemment, je dois dire que les huitièmes et l'écart à une semaine d'écart et avec des transports dans les deux sens, oui, c'était peut-être pas l'idéal. Et c'est quelque chose que le chairman du board de l'EPCR, l'Écossais Dominic Mackay, nous a demandé de revoir avec le comité du Sporting and Tournament Committee.
Bah, c'est intéressant parce que effectivement on a voilà des membres de staff de clubs français qui parfois nous disent que les déplacements en Afrique du Sud sont extrêmement coûteux en termes d'énergie, hein, pour les clubs. À titre de statistique, je pense que vous l'avez aussi, il y a qu'un seul club français qui s'est imposé en Afrique du Sud sur ces deux dernières années, c'est La Rochelle, une victoire sur sept. Et puis les Anglais ne se sont jamais imposés du côté de l'Afrique du Sud, et on est même allé un petit peu au-delà. Les clubs français, quand ils vont en Afrique du Sud, ils ne remportent jamais le match suivant, que ce soit en Champions Cup ou en Top 14. Preuve quand même de la difficulté que c'est de se déplacer en Afrique du Sud avec toute la logistique que vous avez mentionnée. Mais c'est exactement la même lecture pour les clubs sud-africains qui sont aussi en difficulté, et eux, de fin, évidemment, c'est un prisme très français de dire que lors de la phase de poule, eh bien, ce serait inégal pour les clubs du RC de ne pas avoir à se déplacer en Afrique du Sud quand on voit l'impact que cela a. On rappelle que dans les règlements pour les auditeurs, seuls vous pouvez affronter que des clubs d'autres championnats. Ce qui fait donc que le Leinster, le Munster, l'Ulster, le Connacht, l'Edimbourg, Glasgow, enfin voilà, tous ces clubs-là ne vont pas en Afrique du Sud en phase de poule et peuvent peut-être capitaliser sportivement sur ces déplacements coûteux qu'ils n'ont pas à faire, Jacques Reynaud.
Alors, Alexandre, c'est bien évidemment quelque chose que nous regardons avec attention. Nous en sommes à notre deuxième année. L'URC en est à sa troisième année d'expérience. Donc, on accumule des éléments statistiques, hein, des éléments sportifs, comme vous le disiez. Alors, pour avoir été au match de La Rochelle, au Stormers, aux deux matchs, ça a été incroyable, extraordinaire. Et je suis ravi que ce soit un club français qui était le premier à remporter en terre sud-africaine un match. Il est vrai que nous avons beaucoup de retours, que c'est vrai, il y a des défis, mais on a aussi énormément de retours positifs en disant que c'est une expérience humaine extraordinaire, c'est une expérience rugbystique particulière, de jouer un peu plus en altitude, de jouer dans les températures différentes en hiver. Donc nous avons aussi de très très bons retours si je regarde du côté de l'URC qui, je répète, on une année d'avance, ils ont réussi petit à petit à harmoniser le calendrier, à minimiser les voyages en faisant des blocs de deux semaines, et donc ça fait partie des choses que nous regardons pour peaufiner la formule. Hein, qui globalement, je le répète, reste extrêmement positive par son apport financier, par son élévation sportive et par le rayonnement encore plus global de l'Investec Champions Cup et les Challenge Cup, dont je rappelle que c'est quand même plus grande compétition de rugby de club du monde.
Jacques et Alexandre, bien sûr, réaction de Johan sur l'élévation sportive. Est-ce que toi, tu le ressens comme ça? Est-ce que les franchises sud-africaines ont permis à la compétition, effectivement, de s'élever?
Moi, je pense que c'est la nouvelle compétition dans sa formule en entière, où on n'a pas le droit ou très peu le droit à l'erreur. Donc du coup, on peut pas faire d'impasse ou se dire on ira gagner là. Tous les clubs jouent à 100% parce que chaque point est d'autant plus important, parce que il y a très peu de rencontres et tout le monde veut finir maintenant dans les meilleurs premiers. Donc ça a été vraiment élévateur vis-à-vis de la compétition. Après, de dire que les clubs sud-africains ont apporté une réelle plus-value sur les clubs européens, je ne pense pas, sincèrement, mis à part, parce que les Sud-Africains jouent aussi en même temps deux compétitions. Des fois, les Sud-Africains jouent la veille, je crois, leur championnat respectif, et donc ils sont obligés aussi d'avoir deux équipes.
Oui. Philippe Sanguero, réaction au propos de Jacques Reynaud et à celui de Yann Huger.
Non, moi j'ai toujours des formations marketing, commerciales. Je pense que ça a ouvert une voie, clairement, cette arrivée de l'Afrique du Sud. Pour moi, le PCR avait un problème, on en a parlé régulièrement ces dernières années. C'était un changement de formule trop fréquent. Et puis un enjeu aussi peut-être sur la visibilité, les prochaines droits télé, ça c'est un sujet dont on peut parler après. Aujourd'hui, je crois que d'un point de vue marketing, de l'offre globale, les Sud-Africains renforcent le produit, ça c'est indéniable, au-delà du sportif. Comme le disait Jacques, ils ont aussi gagné le droit d'être là, et légitimement, il n'y a plus de débat sur le fait qu'ils soient là sportivement et de savoir s'ils le méritent. Après, ce que je pense, c'est qu'on est dans l'ère de la surcommunication. Là où le PCR s'est peut-être un peu trompé, et dans les grands enjeux de demain, c'est clairement la dimension écologique, environnementale. Il y a eu quelques aberrations, ils ont dit qu'ils travaillaient dessus. Et ça va devenir un enjeu prégnant, parce que les gros sponsors vont avoir de plus en plus de pression sociale et sociétale à s'engager si on ne montre pas patte blanche. Donc l'initiative des Sharks, qui acceptent quand même, en recevant une demi-finale, de pas la jouer à domicile pour la jouer à Londres, ça c'est super intéressant. Et il faudra trouver des solutions pour régler ça. Et si on règle ça, je pense qu'on a la capacité à avoir une très grande compétition qui prenne vraiment sa place, comme elle l'avait malheureusement un peu perdu ces dernières années avec ces changements de formule et cette période Covid qui a été quand même une période un peu de flottement.
Jacques Reynaud, directeur général de l'EPCR, réaction à ces propos, autant sur de Johan que de Philippe.
Écoutez, je suis ravi que les deux, Johan et Philippe, plébiscite la nouvelle formule, hein. Nous y avons travaillé beaucoup pour stabiliser une nouvelle formule après effectivement les errements du Covid, hein. Je rappelle que on a perdu un week-end, donc on est à 8 week-ends au lieu de 9, on commence en décembre et non plus en octobre. Tout ça, ce sont des reliquats des différents changements de Covid. Donc nous avons choisi de faire effectivement une formule en revenant aux formules aux poules, en revenant quatre rencontres qui soient des clubs différents, non pas deux clubs à la maison et à l'extérieur, et avec un enjeu principal sur la phase de poule effectivement et au-delà, c'est le ranking qui permet de jouer à la maison. Donc effectivement, je suis content que des observateurs avertis comme Johan et Philippe le plébiscitent. En ce qui concerne les enjeux écologiques, comme toute organisation sportive qui est un peu un cercle volant qui déplace beaucoup de monde, hein, nous déplaçons 1,3 million de spectateurs dans les stades et nous déplaçons 42 équipes, hein, nous sommes très attentifs. Donc nous avons lancé un programme qui s'appelle Impact, hein, qui a un objectif triple. C'est un objectif d'abord de mesurer, de réduire et de compenser notre empreinte carbone. Donc cette saison sera notre première saison. Nous avons à peine publié notre premier tableau de bord et nous avons déjà des bonnes indications comment réduire de 10% par an dans les prochaines années notre empreinte carbone. Et un des éléments qui je crois a été signifié par Philippe, c'est l'harmonisation des calendriers pour minimiser les déplacements coûteux et favoriser le train par rapport à l'avion ou faire des blocs de 2 semaines de manière à ce que les équipes soient sur place dans un hémisphère nord ou sud pendant 2 semaines et limiter ainsi l'empreinte carbone. Donc c'est un sujet stratégique pour le TCR, comme je crois pour beaucoup de fédérations et sportives ou organisateurs sportifs. Et nous l'avons pris à bras-le-cœur et ça sera notre première année vraiment où nous aurons mis la main sur ce vrai sujet écologique et qui, comme le rappelle Philippe, c'est non seulement, ça me tient à titre personnel, mais nous avons effectivement beaucoup de nos partenaires, que ce soit sponsor, que ce soit télévision, que ce soit club, qui nous posent la question, qui nous demandent et qui, comment dirais-je, sont aussi alignés sur cette volonté de faire attention à l'environnement malgré le fait que nous sommes un organisateur d'événements sportifs qui bougent les gens.
Oui, qui bougent les gens et qui bougent de formule. Est-ce que cette formule va rester, celle des poules? Et quand, on va dire, vous allez basculer vers le championnat du monde des clubs et comment ça va s'opérer, Jacques Reynaud?
Déjà, ils ont décalé la compétition en décembre, donc ça laisse un peu plus de temps.
Voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on fera les comptes à la fin de la saison. Il faut aussi faire attention. Nous sommes toujours un peu, faisons particulièrement attention à tirer des bilans trop hâtifs dans une saison de Coupe du Monde, hein, qui a quand même un calendrier un peu particulier et qui sollicite les joueurs et les équipes de manière un peu différente. Donc, on va tirer les premières conclusions. Il n'y a aucun changement prévu pour la 24-25. Donc pour la saison prochaine, dont la finale sera à Cardiff. En revanche, comme je disais, on est en train de regarder si on n'arrive pas quand même à retravailler le calendrier entre les 8e et les quarts de manière à éviter cette fatigue et dans le cas des déplacements. La première année, il n'y avait pas de déplacement d'équipe européenne, c'était les Sud-Africains qui étaient montés. Cette fois-ci, il y a eu dans les deux sens. Et donc ça a mis le doigt sur quelque chose. Ce serait peut-être la petite formule, la petite chose qu'on essaierait de toucher si on pouvait le plus tôt possible. Concernant la Coupe du Monde des clubs, c'est quand même quelque chose sur laquelle on travaille depuis un certain temps. On aimerait trouver la quadrature du cercle. On s'en approche. On commence avec le travail avec le top 14, la première chiffre et l'URC. On commence avec les groupes de travail à se rapprocher de la quadrature du cercle. Hein. Ce serait effectivement, la première édition serait en 2028. Elle serait décalée, ça veut dire qu'on décalerait les phases finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup en juin pour faire un tournoi de 4 semaines. Les 8 meilleurs de la Champions Cup issus des poules et les 8 meilleurs de Super Rugby Pacifique, hein, qui s'affronteront en deux tours de poules, une demi et une finale, et toutes les autres équipes qui s'affronteraient dans le cadre d'une Super Champions Cup. Hein, donc la Challenge Cup qui changerait dans cette année particulière et deviendrait une Super Champions Cup. Aujourd'hui, nous avons, je crois, trouvé une formule sportive qui est compatible avec les calendriers, avec le calendrier des ligues, avec on va dire ce qu'on appelle le player load, donc la santé des joueurs. On est en train de consulter certains de nos partenaires majeurs télévisuels et sponsors. Et en fonction de ces consultations, on va voir si on arrive à avancer à cet échéance de 2028 qui est un petit peu ce qu'on s'était fixé comme premier objectif.
Et justement, oui, Philippe, vas-y.
Pardon, Alex. Excuse-moi de te couper. Je pense que là, quand même, sans s'avancer trop, on a quand même une formule qui permet de répondre à une problématique quasiment insoluble qui est la nécessité de rajouter des matchs normalement pour les nouvelles compétitions. Et là, il y a quand même une formule qui se dessine, qui permettrait de contenter tout le monde. D'abord, de renforcer le produit marketing des Champions Cup et du rugby du Sud et du Super 15 sans rajouter de matchs. Donc là, a priori, on a réussi à contenter tout le monde, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que ça n'aille pas au bout aujourd'hui?
Alors, écoutez, merci Philippe de ce satisfait-ci. J'en ferai part à mon conseil d'administration. Je crois que tout le monde partage.
Je le dis d'autant plus simplement qu'on a fait plusieurs débats sur le sujet. Et c'est vrai que Ça n'est jamais arrivé. On connaît la problématique d'aller chercher de nouveaux revenus. Le rugby en a besoin. Et pour ça, on n'a pas le choix. Il faut créer des compétitions et c'est assez insoluble. Là, c'est quand même assez ingénieux comme formule. Donc, il faut le souligner. Donc, je me dis qu'on a répondu aux problématiques de toutes les parties.
Oui, alors Philippe, vous avez raison. C'est effectivement la Coupe du Monde des clubs est en fait substitutive aux quatre dernières dates, aux quatre derniers week-ends de la Challenge Cup et de la Champions Cup. Donc c'est la formule que nous avons trouvée pour ne pas augmenter les dates et faire attention à la santé des joueurs. On est par contre pour que ça soit compatible avec les calendriers des championnats Top 14, Première Chip et URC qui sont nos actionnaires et qui nous fournissent les 42 clubs. Il faut qu'on joue en juin. Et donc, en juin 2028, il y a l'Euro pour certains diffuseurs. Il y a certains diffuseurs qui ont déjà d'autres engagements sur les diffusions sportives. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, il faut que nos partenaires globaux, que ce soit Investec, que ce soit DHL, que ce soit ISG, que ce soit Gilbert, Carpin et Tissot, nous suivent dans cette ambition, qui est d'abord une ambition sportive. Hein, vraiment, c'est quel est le meilleur club au monde ? Quel est le meilleur club au monde et comment le déterminer ? Ben, on prend les plus grosses compétitions et on fait une espèce de Ryder Cup du rugby en essayant de déterminer est-ce que c'est une équipe du Sud, est-ce que c'est une équipe du Nord. Et donc, nous, on travaille avec passion là-dessus, mais la tête froide. On a, je pense, résolu le calendrier et l'aspect sportif et la santé des joueurs. Il faut qu'on arrive à trouver la quadrature du cercle économique et de programmation sportive pour aller de l'avant. Et ça va se faire.
Vous espérez combien de droits sur une nouvelle compétition comme celle-là ? Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à l'économie du rugby ?
Alors d'abord, c'est quand même la crème de la crème. Donc on s'attend à ce que les diffuseurs rajoutent un petit peu au pot et de même pour les sponsors. Et puis, de même que dans d'autres sports, il y a des compétitions du club. Hein, je pense au volley, je pense au foot et d'autres compétitions type le golf. Il y a aussi de nouveaux partenaires qui arrivent. Et donc, et potentiellement aussi de nouveaux diffuseurs. Donc c'est toujours cette volonté de l'EPCR d'innover et de pousser. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est une idée qui vient un peu de Toulouse et un peu de l'Irlande. L'Irlande a la tradition d'inviter des clubs néo-zélandais, et ils l'ont fait encore cette année en invitant des Crusaders qui ont joué une fois au Munster, je crois une fois avec les Bristol Bears. Toulouse avait le Master en fin de saison où ils invitaient des équipes un petit peu qu'ils n'avaient pas l'habitude de rencontrer. Et donc c'est une idée qui plaît beaucoup, qui est ancienne. Et là, notre travail aujourd'hui, c'est de la structurer, c'est de trouver la quadrature du cercle entre le sportif, l'économique et l'accord avec les diffuseurs et les sponsors.
Justement, est-ce qu'il n'y a pas le risque, Jacques Reynaud, de dévaluer la Champions Cup quand elle n'est pas sur la formule Coupe du Monde, c'est-à-dire les trois autres années ?
Alors, c'est une des critiques possibles. Nous pensons que...
C'est pas une critique de ma part, hein, mais c'est vraiment une... garder la valeur, quoi.
Alors, la Champions Cup, si vous voulez, comme aujourd'hui, la Champions Cup se transformera en Super Champions Cup puisqu'on prendra les 8 non qualifiés pour la Coupe du Monde de clubs cette année-là, qu'on mettra en Challenge Cup, qui va renforcer la Challenge Cup. Nous pensons avoir trouvé une bonne formule d'avoir une Champions Cup, donc on appellera cette année-là probablement la Super Champions Cup, assez forte. Et aujourd'hui, la difficulté, enfin le challenge sportif de ce Super Champions Cup restera tout à fait à la hauteur de la Champions Cup. Donc on pense qu'aujourd'hui, sur le papier, vous avez raison, c'est une possibilité théorique. On pense que d'un point de vue sportif, on produira un champion européen et on produira un champion du monde des clubs la même année, et on pense que c'est possible.
Et on avait invité les auditeurs à poser une question, à nous transmettre des questions. Et il y en a une notamment qui est intéressante. Sur Twitter, on nous a dit, voilà, on a invité maintenant un club géorgien, le Black Lion, en Challenge Cup. Est-ce qu'on peut imaginer, à l'avenir, avoir un club portugais, un club espagnol, ouvrir peut-être vers ce qu'il se passe au sein du Rugby Europe, au sein de l'institution Rugby Europe?
Alors, absolument. C'est une bonne question d'un auditeur qui a l'air de s'y connaître. Alors, nous avons par dans notre cas, je n'étais effectivement l'extension géographique du tournoi pour ou des deux coupes hein, pour populariser et faire grandir le rugby. Et donc, la Géorgie a créé cette franchise professionnelle pour alimenter ses ambitions de l'équipe nationale et Black Lion. Et ils jouaient la Super Coupe et ils l'ont gagné plusieurs fois. Ils avaient besoin de plus de matchs et ils avaient besoin de se frotter à plus élevé. Donc, nous avons pris le risque de les inviter. Ils ont demandé à Clermont. Ils ont très, très bien joué. Demandé à Gloucester. Ils ont failli les battre. Demandé aux Dragons. Les Black Lions les ont battus. Donc, d'un point de vue sportif, c'est une réussite. Et ça nous pousse effectivement à regarder du côté du Sud. Effectivement, le Portugal et l'Espagne. La petite difficulté qu'il y a peut-être au jour d'aujourd'hui, c'est que quand on écoute nos collègues de Rugby Europe avec lesquels nous sommes en constant échange sur ce sujet, c'est que là où les Black Lions ont fait le pas professionnel, les franchises espagnoles et portugaises sont encore semi-professionnelles. Donc il y a encore deux trois choses à régler pour qu'elles aient le niveau pour jouer ces compétitions qui sont quand même plus difficiles que leur compétition domestique ou la compétition de Rugby Europe, de leur propre aveu et de l'aveu de tout, enfin de d'un point de vue de tout ce que nous disent les directeurs sportifs qui pratiquent les deux compétitions, Challenge Cup et Rugby Europe.
Johan Huger, peut-être réagir sur cette perspective des championnats du monde, de Coupe du Monde des clubs, je ne sais pas comment la nommer, mais en tout cas sur ce que nous expliquait Jacques, là, sur la formule, toi, l'ancien joueur que tu es, qui a joué à Toulouse, qui était dans cette exigence et cette fuite vers les trophées, est-ce que ça attire forcément ?
Ça attire, bien entendu. Déjà, juste un Champions Cup, le fait de se mesurer déjà au club sud-africain, ça nous permet, quand on joue pour la plupart des joueurs toulousains en équipe de France, de savoir où on en est physiquement. On sait que c'est un rugby très rugueux, très physique. Et le fait de les côtoyer, ça nous permet de nous étalonner en amont des matchs internationaux. Et cette Champions Cup, pour pas que le Stade toulousain, mais tout joueur qui est compétitif, ça aspire à une excitation de savoir où on en est. Et puis tous les joueurs ne sont pas en équipe de France, tous les joueurs ne sont pas internationaux, donc ces compétitions-là permettent aux joueurs non capés aussi de voir le travail qu'il y a à faire ou le travail accompli pour devenir c'est beau un titre de champion du monde de club.
Ce serait pas mal, ouais.
Ouais, c'est pas mal.
Philippe Spanguero, Jacques, il a été quand même assez habile. Il nous a pas donné le montant qu'ils attendaient sur les droits de la Coupe du Monde des clubs. Toi, t'en penses quoi, Philippe ?
Ben, j'en pense que en fait, il y aura pas de droits. De ce que j'en comprends, le vrai intérêt, c'est que ça va servir les deux compétitions parce que comme ce sera des sponsoring pluriannuels. Et que forcément, ils proposeront pas que cette compétition. L'idée, c'est de faire monter la valeur marketing des deux championnats, du Nord et du Sud. Et en disant, une fois tous les quatre ans, il y a ça au bout.
Il y a la cerise.
Et c'est la cerise. Et il faut absolument le jouer comme ça. Parce qu'en faire un produit unique, ça fonctionnera pas. Après, il y a tout ce qui va se passer autour. Moi, je crois qu'on a une occasion exceptionnelle de vraiment rentrer dans la dimension de l'entertainment comme le rugby n'y a jamais été avec cette compétition. Si elle est cohérente et qu'elle est bien expliquée dans les calendriers et qu'elle génère une économie qui fait que les prize money sont intéressants pour les clubs de la jouer à fond, on va avoir une belle nouvelle compétition. Et encore une fois, ça va obliger tout le monde. On est sorti pour moi du problème récurrent du rugby depuis quasiment qu'il existe, et au moins depuis qu'il est professionnel. C'est que tout le monde est aligné et a un intérêt commun à harmoniser les calendriers à l'échelle mondiale.
C'est l'effet CVC, Jacques Redo ?
Alors, le CVC n'est pas un actionnaire direct hein, de PCR, c'est un actionnaire de nos actionnaires. Mais le sujet des calendriers se fait au niveau de World Rugby. Hein, nous faisons partie du comité advisory, hein, donc du comité consultatif de World Rugby sur les calendriers, en tant que PCR avec les ligues top 14, la première chiffre et l'URC. Et c'est dans cette instance-là que se discute beaucoup et se détermine beaucoup de l'harmonisation des calendriers pour la santé des joueurs.
Jacques Reynaud, directeur général de l'EPCR, l'organisme qui organise la Champions Cup, voilà, et qui était notre invité spécial. C'était un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Sud Radio. Voilà, on aurait plein d'autres questions, mais on est forcément pris par le temps. On vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous. On remercie Johan, Philippe et toute l'équipe. Ça continue encore sur Sud Radio parce qu'à suivre, eh ben, il y a un match dans une heure qui est clairement au Stade Français. Et puis les auditeurs ont forcément envie de réagir, Alex. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Et Samy nous appelle de Lyon avec cette nouvelle fréquence, le 105.8.
Moi, je vous écoutais déjà depuis pas mal de temps via l'application, mais maintenant, je pourrais vous suivre partout sur cette nouvelle fréquence.
Sud Radio, parlons vrai.
Chez Autosécurité, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Autosécurité fait son grand jeu des As de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur autosécurité.com. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Sud Radio Tarascon.
95.2.
Sud Radio.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. J'ai profité de votre offre 2 plus 1 offert sur les perles de lait.
Oh, trop bon ça.